Alors, le député de Lorion, Lorion-Dorier, ça va bien, mon nom, Lorion-Dorion, est responsable en matière de logement, Andrés Fontecilla, qui est député de Québec solidaire, donc le deuxième parti d'opposition au Québec, fait partie sur le gouvernement de la CAQ pour l'adoption d'une loi spéciale pour suspendre les augmentations de loyers pour l'année 2021. Alors, il y en a pour, il y en a qui sont contre. Je peux comprendre les points de vue de chacun. Chacun pèle un peu pour sa course, on peut dire. Je suis d'accord avec ça. On va essayer de s'éclairer là-dessus et voir si c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite. On a avec nous Hans Brouillette, qui est directeur aux affaires publiques de la CORPIC. Ça, c'est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour, M. Brouillette.
Bonjour, M. Bigrand.
Alors, vous représentez les propriétaires. Fait qu'un gel des loyers, ça m'étonnerait que vous soyez pour.
Bien, évidemment, c'est pour nous impensable. Économiquement, ça peut pas être défendable non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Mm-hmm. Mais globalement, ici, on a un député et un parti politique qui prône un contrôle des prix, mais en même temps, on n'a pas de contrôle des coûts. Donc, les coûts de gestion des immeubles augmentent, les primes d'assurance augmentent. On a heureusement un gel de taxes là pour Montréal, en tout cas, pour 2021, mais les coûts de gestion, évidemment, la pandémie a coûté aussi très cher. On a des coûts de construction en hausse de 7%. Donc, c'est une chose que de dire on va contrôler, on va geler les prix, mais il faudrait aussi regarder du côté des coûts. Là où on a un sérieux problème, c'est qu'on imagine que les propriétaires sont des gens qui roulent tous sur l'or et qui font de l'argent et que finalement, ben, ça serait à eux de payer pour cette différence entre l'augmentation des coûts et le prix. Et là, vraiment, il faudrait qu'on nous explique pourquoi. Parce que
mais par la force des choses, Monsieur Brouillette, mais je crois qu'effectivement l'idéal serait de pouvoir déterminer, par exemple, des énormes compagnies de placement qui font beaucoup d'argent, des petits propriétaires qui en font beaucoup moins et puis qui peut-être même se mettent en perte. Idéalement, ça serait ça. Est-ce que c'est faisable?
Ben, ça serait difficilement faisable. Je comprends ce que vous dites, mais du même coup, il faudrait à ce moment-là déterminer qui sont les locataires qui ont vraiment des difficultés financières, parce qu'il y en a, bien sûr. Certains ont perdu des revenus. D'autres, des gens à très faibles revenus qui sont prestataires de programmes gouvernementaux, n'ont pas vu de diminution de leurs revenus suite à la pandémie. Donc, il y a différentes situations.
Ils sont
chez
sur maintenant là, sur la PCU est terminée, donc ils sont sur l'équivalent de l'assurance chômage qui ne garantit pas évidemment une paye complète. Et moi je peux vous dire, évidemment, je vous parle d'où je suis là. Je suis pas partout. Je connais pas tout, mais je peux vous dire que par exemple, dans la rue, il y a une nouvelle gang de sans-abri qu'on n'avait jamais vue, qui eux autres sont pas habitués du tout, sont pas amanchés pour vivre dans les rues et dormir dehors. C'est ceux qui n'arrivent simplement plus, malgré le fait qu'ils travaillent, qu'ils ont des petits salaires, ils n'arrivent plus à se trouver un logement à Montréal. Ça existe, vous savez ça.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le problème étant que les coûts des logements ont explosé. Et là, je ne parle pas des loyers, là, je parle du coût de l'habitation. Donc,
oui.
Les coûts des terrains, les coûts de construction, les coûts de gestion, de réparation, d'assurance, ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à suivre l'évolution de ces coûts-là. Donc, ce que propose Québec solidaire, M. Fontecilla, c'est que finalement, on va contrôler le prix pour faire en sorte que ces gens qui n'y arrivent pas puissent avoir un meilleur accès au logement. En fait, il faut faire exactement l'inverse. Plus on va contrôler les prix, comme c'est déjà le cas, là, il y a déjà un certain contrôle des loyers au Québec, plus on contrôle les prix, moins il y a d'offres. Et la rareté crée une augmentation substantielle des prix. Allez, c'est ce qu'on voit présentement. Vous savez, tous les petits plex là, à Montréal, duplex, triplex, il y en a de moins en moins de logements disponibles dans ces immeubles-là parce que les propriétaires ne sont plus intéressés. On a au Québec des loyers, le loyer moyen au Québec là, était de 815 $ au Québec, ça c'était l'an dernier. En Ontario, c'est 1 400 $ en moyenne. Alors c'est sûr que vous avez ici des situations où les propriétaires se disent ce n'est plus intéressant pour nous. Donc, on contrôle les prix en espérant aider des gens à plus faible revenu, mais à moyen terme, c'est l'inverse qui se produit.
Parce qu'effectivement, le gouvernement Ford l'a fait, lui, il a gelé les augmentations de loyers jusqu'au 31 décembre 21. La Colombie-Britannique aussi l'a fait, mais je comprends votre point de vue. Juste une petite seconde.
Les deux provinces sans avoir dit une chose importante,
oui.
M. Biran. Dans ces deux provinces-là, quand le locataire déménage, le propriétaire est libre de remettre le loyer au prix du marché, ce qui n'est pas le cas au Québec. Le nouveau locataire peut contester le nouveau loyer. Donc,
trouvez pas le prix du marché un peu artificiel rendu à cette hauteur-là? Je sais que vous n'en êtes pas responsable, mais à un moment donné, tout est trop cher. Mais si on envisageait, par exemple, un gouvernement qui dirait, écoutez, on va vous aider avec les coûts, est-ce que vous accepteriez d'aider le gouvernement avec le prix des loyers?
Bien, aider avec les coûts, moi, je vous dirais, s'il y a une aide, elle doit être directe. Et elle doit être aux locataires, parce que ce ne sont pas tous les locataires qui sont en difficulté. Il y en a qui sont en grande difficulté. Si on compare les deux derniers recensements, il y a moins, dans la région de Montréal, il y a moins de locataires qui dépensent plus de 30% pour se loger qu'il y en avait dans le recensement précédent. C'est 36%. Ça demeure un chiffre élevé, je suis d'accord, mais c'est quand même moins que les 40% qu'on avait lors du recensement précédent. Donc, le revenu moyen des locataires augmente net après impôt, a augmenté plus vite que les loyers au cours des 25 dernières années. Le poids du loyer aujourd'hui représente environ 23% des revenus moyens des locataires, alors que c'était 26% il y a 25 ans. Bien sûr, je vais être d'accord avec vous, il y a des gens qui n'ont pas réussi à suivre l'évolution des coûts, mais
c'est pas une petite exception, un petit détail, c'est quelque chose de très, très grave. Mais je veux dire, moi, je comprends tous les côtés là-dessus. Je voudrais juste, parce que je l'ai en ligne, lui aussi, lui, il doit piaffer un peu. Je crois que vous connaissez d'ailleurs Maxime Roy-Allard, qui est porte-parole du regroupement des comités de logement et association des locataires. Qu'est-ce que vous pensez d'un gel, Monsieur Roy-Allard? Et qu'est-ce que vous pensez des doléances de Monsieur Brouillette? Quelque part, il met quelque chose dans votre cour, là.
Oui. Bonjour, d'abord.
Oui, bonjour, en premier. Excusez-moi, je suis mal poli.
C'est pas une idée nouvelle de notre côté. D'ailleurs, on est né en 1978 sous le nom du regroupement pour le gel des loyers. Donc, c'est une idée qui ne date pas d'hier. Mm-hmm. On la revendique à plusieurs occasions. On réclame un contrôle obligatoire des loyers. On dit, en attendant d'avoir un réel contrôle, gelons les loyers pour limiter justement les augmentations abusives de loyers et aider les locataires pendant une pandémie comme ça à joindre les deux bouts et à éviter l'appauvrissement, l'itinérance et les campements de fortune qu'on a vu voir le jour cet été dans le Grand Montréal. Donc c'est sûr que c'est un énorme problème. Il y a une flambée des loyers actuellement au Québec. On l'a documenté au printemps dernier. Sur 5 ans, les logements alloués dans le Grand Montréal ont augmenté de 40%. Donc c'est énorme. On n'a jamais vu ça. C'est sûr que c'est pas...
Mais les achats de logements ont aussi monté. À un moment donné, M. Brouillette, là, il parle de sa shop, comme on dit. Et c'est parfaitement normal, c'est sa job. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le côté des deux puis d'essayer de trouver une balance là-dedans qui puisse être le plus satisfaisante possible pour tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord avec certains points que si effectivement acheter un logement est beaucoup plus cher maintenant. Moi, je suis à la campagne, je ne reviendrai pas à Montréal, je regarde les prix des condos, c'est pas achetable. C'est certain que quelqu'un qui achète un condo pour essayer de se faire un placement, puis de tu sais, qui achète peut-être un ou deux logements, puis qui va collecter ses loyers, puis il paye beaucoup plus cher, les loyers doivent monter aussi.
Tout à fait. C'est le problème fondamental qu'on dénonce depuis plusieurs années. C'est la spéculation immobilière qui frappe les grands centres urbains. C'est pas normal que l'immobilier soit assujetti à cette folie immobilière à ce point-là. C'est pas normal que à chaque année, on voit des augmentations de l'immobilier de 10, 15, 20 % Et évidemment que les nouveaux propriétaires qui achètent des triplex à 1 million, ils vont vouloir augmenter rapidement le prix des loyers. Mais c'est justement avec des mesures de contrôle qu'on va limiter cette spéculation-là. C'est avec des mesures comme ils ont fait en Colombie-Britannique, en Ontario, mais beaucoup trop en retard, en limitant les flips immobiliers, en limitant la revente rapide, en limitant les acheteurs étrangers, en instaurant des contrôles obligatoires des loyers qui vont venir limiter justement cette folie immobilière-là, qui finalement se répercute sur les locataires. Évidemment que les petits propriétaires ont aussi de la misère à arriver rapidement, quand ils achètent des immeubles à ce prix-là, ils veulent augmenter. Mais les anciens propriétaires, eux, ils ont fait de la cagnotte. Ils ont acheté des immeubles dans les années 2000, dans les années 90 pour des peanuts, et ils revendent à des prix de fou sans, ils n'ont jamais fait de rénovation. Les nouveaux propriétaires écopent. Mais c'est au bout du compte, c'est le locataire qui...
Le locataire qui va payer, c'est certain, mais une question à vous poser à tous les deux. D'où vient cette spéculation complètement folle? Il y en a toujours eu. Je sais que le marché, par exemple, des Asiatiques achètent beaucoup de nos logements et de nos buildings comme placement et que ça a peut-être contribué à une certaine spéculation, mais cette hausse-là, absolument, je vais le dire, débile, à un moment donné, qui se retrouve à être portée par les petits propriétaires et par les locataires, d'où elle vient? Quels sont les facteurs qui ont provoqué ça?
Si vous permettez, M. Bigras, c'est très clair. Ça vient de la baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt a favorisé l'accès à la propriété. Il y a eu un vaste mouvement d'accès à la propriété au début des années 2000 qui a résorbé la crise du logement de l'époque. Et encore aujourd'hui, la crise accentue ça, la crise économique accentue ça. La baisse des taux d'intérêt fait monter les prix. Et M. Roy-Laure a raison sur une chose, c'est que l'acheteur paie beaucoup plus cher que le vendeur l'avait payé à l'époque, son immeuble. Mm-hmm. Donc, il s'endette à des niveaux élevés. Donc, la spéculation, je vous dirais que c'est, on n'est pas du tout d'accord avec ça parce que, je parle avec ce point de vue qui s'agit de spéculation parce que le marché, pourquoi il est si attrayant et pourquoi les prix augmentent, c'est qu'au Québec, il y a encore un retard important quant aux valeurs immobilières par rapport à ce qui se retrouve ailleurs au pays. Et M. Roy-Laure disait, bon, il y a de la spéculation, on parle du marché privé, mais juste pour lui rappeler une chose, même pour les immeubles de logements sociaux, donc on est hors marché privé, il y a des intérêts privés, il y a des constructeurs qui font des profits, il y a des groupes de ressources techniques qui viennent chercher une cote.
Mais c'est à cause des lois qu'on passe qui forcent ces propriétaires-là, quand ils veulent construire un ensemble sur lequel ils vont faire beaucoup d'argent, ils doivent construire un minimum de logements sociaux, c'est parce qu'ils y sont forcés, là.
Non, je parle des logements sociaux, les coopératives d'habitation. Vous savez, il y a à peu près 15-20 ans, ça coûtait en moyenne réaliser un projet de logements sociaux là, par un organisme à but non lucratif. Mm-hmm. Le montant moyen, là, le coût par logement, était de 77 000 selon les chiffres de la Société d'habitation du Québec. Ça, c'était en 2002. Aujourd'hui, c'est autour de 200 000 $. Alors, on peut bien vouloir dire qu'il y a de la spéculation dans le marché privé, mais vous voyez, les coûts sont pour tout le monde, y compris pour les logements sociaux. Alors, cette évolution des coûts, malheureusement, les revenus de certains locataires n'ont pas suivi. Pas les revenus des travailleurs locataires, les revenus des gens qui sont prestataires de programmes gouvernementaux, qui n'arrivent plus à suivre ce que ça coûte.
Ah non, c'est pas seulement qu'eux autres. Dans la rue, on trouve beaucoup, j'ai jasé avec beaucoup de monde qui ont des jobs, et des fois, le couple, les deux ont un job, et c'est pas suffisant pour se payer un loyer à Montréal.
C'est sûr que c'est pas possible pour tout le monde, mais on va pas contrôler l'ensemble des loyers pour subvenir aux besoins d'une minorité. Cette minorité doit être aidée de façon plus directe, financièrement, à suivre l'évolution du coût de l'habitation.
Faut être prudent, M. Brouillette, sur la minorité. C'est-à-dire que c'est la majorité des locataires qui écopent. Il y a peut-être une minorité en ce moment qui n'est plus capable de payer, mais c'est une minorité qui augmente tout le temps. Il y a quelques années, on voyait pas ça, des gens qui ont des jobs et qui n'arrivaient pas à se payer de loyer. Je vais vouloir qu'on en discute avec vous deux. Vous êtes très intéressants tous les deux, mais je dois prendre une petite pause. On revient tout de suite. Alors, je vous rappelle, je suis toujours avec... on se pose la question, est-ce qu'on devrait geler la hausse des loyers en 2021? Je suis avec Hans Brouillette, qui est directeur des affaires publiques de la CORPIC. Ça, c'est l'association des propriétaires. Il n'est pas d'accord, on peut comprendre. Et il y a Maxime Roy-Allard, qui est porte-parole du regroupement des comités de logement et associations des locataires, qui, lui, est d'accord. Alors là, les deux points de vue s'affrontent. Chacun a ses arguments, mais je veux entendre les vôtres aussi. Alors, essayez de nous téléphoner parce que là, vous allez pouvoir parler une table ronde. On va être trois à vous répondre. Je vais essayer de gérer le trafic. Là, ça va bien se passer. On va prendre... D'abord, vous pouvez m'appeler, excusez-moi, le numéro 514-790-9850 ou si vous êtes un petit peu à l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. On va prendre un premier appel. On va parler à Sylvain qui, lui, est propriétaire. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on va bien, je pense, tous les trois en ce moment. Autant que faire se peut, on s'arrange. Alors, quel est votre point de vue là-dessus?
Écoutez, moi, au printemps, quand ça a commencé, le premier confinement, je pense que Québec solitaire qui avait commencé à parler là-dessus, là, de ne pas payer les loyers. Ça fait
solidaire.
Moi, j'ai juste trois propres.
Ouais, c'est ça, solitaire. Mais ça s'en vient solitaire. Pas, oui.
Ouais, je ne suis pas une multinationale. Là, je me suis dit, oh, ça, il va y avoir des profiteurs qui vont profiter de ça. Comme défaite, j'ai eu un de mes locataires qui ne voulait plus payer le loyer. Il disait qu'il avait perdu sa job, cette affaire-là. Mais le gars, là, c'est un travailleur saisonnier. Fait que d'habitude, là, il travaille jamais l'hiver. Uh-huh. Mais en tout cas, fait que pour faire une histoire courte, c'est qu'il avait de l'aide bien renseigné. Il dit, oh, la banque va t'arranger de quoi? Mais les banques, ils ont pas fait, ils m'ont pas fait de cadeau. Je me suis informé à la banque. Eux autres, là, OK, ils me donnaient un 3 mois là, que je n'avais pas besoin de payer mon hypothèque, sauf que ça se rajoutait sur mon.
Ah oui, ils vous l'enlèvent pas. Ils vous le repoussent plus loin.
Intérêts.
Là.
Ah oui, c'est ça. Ils mettent encore des intérêts sur les intérêts. Fait que lui, il était 3 mois pour payer le loyer. Puis quand ça arrivait le temps, ben, à un moment donné, j'arrivais, mais la maison était vide.
Ah. Oui, je comprends.
Fait que là, c'est ça. Là, aujourd'hui, il parle encore là, de geler les montants, ces affaires-là. Moi, là, ça me ferait plaisir là, de louer ma maison 300$. Mais tout coûte plus cher, tout est augmenté. Même s'ils veulent faire des gels, ben, qu'ils fassent des gels sur la nourriture, là, que ça fait 2-3 fois qu'ils augmentent. Tu sais, à un moment donné, là, on peut pas. Là, ils sont tous en train de faire tomber les petits commerçants. Puis là, ils veulent faire tomber les petits propriétaires, de la manière que je vois ça.
Oui, c'est que vous faites une différence assez nette entre les petits propriétaires et les grosses corporations.
Ben oui.
C'est parce qu'il y en a qui font énormément d'argent, mais effectivement, un petit propriétaire, lui, il survit là-dedans.
Non, c'est
pas...
ça. Un de mes amis, il a 150 portes. Lui, là, il paye un loyer dans le bois, là, ou 3 ou 4. Là.
Il va survivre.
Ça ne le dérange pas, là. Ben oui, ça ne le dérange pas. Il rentre à peu près 200 000 par mois dans son compte de banque en loyer. Fait que lui, là, même s'il perd 300-400 piastres, 3-4 000 dans un mois, ça ne dérange pas. Là. Lui, là, c'est encore mieux. Il m'a expliqué à un moment donné, moi, souvent, quand j'avais des problèmes, j'allais à la régie du logement, c'est tellement long, ça dure tellement longtemps. Puis, en bout de ligne, à chaque fois que j'étais là, j'ai gagné, j'ai jamais collecté une scène, ça m'a tout le temps coûté de l'argent. Puis, informez-vous des lois, il y en a un qui est là pour la Corpic, là, informez-vous des lois, c'est aberrant. Il faut que tu payes pour les amener à la régie. Un coup, tu gagnes, il faut t'attendre. Il faut que tu payes un huissier pour aller porter les lettres. Puis après, mais l'huissier, il faut qu'il donne un autre 2 semaines en plus du deadline du papier de la régie du logement. Si jamais il s'en aille pas, là, je suis obligé d'engager un huissier qui s'en vienne dans la maison, que je mette tous les meubles ou les effets personnels du locataire dans les boîtes pour qu'il voit que j'ai rien brisé pour pas qu'eux autres reviennent comme quoi j'ai brisé de quoi. Faut que j'entrepose leur stock en cause. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a juste au Québec qu'on voit ça. J'ai un de mes amis en Alberta, là, eux autres, ils payent un mois d'avance. S'ils sont 2 jours en retard sur le loyer, là, le char de police est en avant de la porte, tu prends le stock, tu le mets sur le bord du chemin, puis c'est les locataires qui s'arrangent avec ça. C'est juste au Québec qu'il y a ça.
OK. Je comprends votre point de vue. Ce que je comprends aussi, c'est la lourdeur administrative. Merci, Sylvain. On a François. Salut, François.
Bonjour, Dan. Comment ça va?
Ça va très bien. Toi, t'es locataire.
Oui, je suis locataire. Par choix. Puis, je te dirais que oui, je suis pour un gel des loyers, puis surtout pour une réforme des loyers, puis une meilleure application des normes en ce qui concerne les propriétaires. Ils ne sont pas tous des très bons propriétaires. On entend beaucoup parler des propriétaires comme toi qui ont beaucoup des mauvais locataires. On n'entend pas parler des mauvais propriétaires. Les propriétaires qui t'arrivent à toutes les années avec une augmentation de 5, 10, 15 % en disant que dans l'Ouest de Montréal, un 5,5, ça coûte 2 000, ou dans l'Ouest canadien. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans l'Ouest canadien. Moi, je suis camionneur. Ici, j'ai un bon salaire. Puis dans l'Ouest canadien, j'aurais pratiquement le double du salaire que je gagne ici au Québec. Fait qu'arrêtez de nous dire que dans l'Ouest canadien, on n'est pas dans l'Ouest canadien. Et ici au Québec, les propriétaires, eux autres, à toutes les années, te sortent une augmentation de salaire en disant « Ah, l'électricité coûte plus cher, les assurances coûtent plus cher, l'entretien coûte plus cher. » C'est drôle. Moi, il faut que je me batte avec mon propriétaire pour l'entretien.
C'est un autre aspect du problème. Il y a des propriétaires délinquants, comme Sylvain nous parlait des locataires délinquants. Il y a des propriétaires délinquants. Dites-moi, merci François. Monsieur Brouillette, il y a les. Effectivement, ça c'est très connu à Montréal, des propriétaires qui ont des blocs avec 50, 75, des fois 100 logements, et ils sont complètement insalubres, puis on n'arrive pas à mettre la main dessus pour les forcer à faire les réparations puis les rénovations. Et il y a un paquet de gens qui vivent dans des loyers qui sont dans des conditions complètement insalubres.
Oui, on a déjà expulsé de notre association des propriétaires qui, franchement, ne méritaient pas qu'on les représente. Ça existe, oui. Par contre, là où on a un problème, c'est qu'on est incapable, pour le moment en tout cas, de distinguer ceux qui sont vraiment récalcitrants et ceux qui souhaiteraient investir, mais peuvent pas le faire parce que si vous investissez 1000 $ aujourd'hui, demain matin, il vaut juste 500. C'est-à-dire que avec le rendement accordé par le tribunal en fixation de loyer, le coût des travaux va être étalé sur 43 ans en 2021. 43 ans. Il n'y a rien qui dure 43 ans. Donc, vous avez des propriétaires qui se disent « Je veux bien rénover, mais je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent. Je ne peux pas me permettre de même pas être capable de payer les intérêts hypothécaires, les intérêts sur l'emprunt lorsque je vais refinancer à la banque. » Donc, le coût des travaux est supérieur à la valeur qu'il procure. Alors là, on a un problème parce qu'il y a un désinvestissement à ce moment-là dans les immeubles. Les petits immeubles, tranquillement, quittent le marché locatif, deviennent soit sous gestion de plus grandes entreprises ou encore convertis en condos. Alors, c'est sûr qu'on a un parc qui se détériore. Bien sûr, on a bénéficié de loyers bas par rapport au marché canadien au fil des années, mais aujourd'hui, le rattrapage est impossible à faire. On ne peut pas mettre 100 000, 200 000, 300 000 dans un plex qu'on vient d'acheter il y a un an à peine.
Il va falloir quand même trouver des solutions parce qu'il y a des gens qui habitent dans des logements insalubres. Puis je n'en parlerai pas si c'était 2-3, M. Brouillette, là.
Il y en a beaucoup, je le sais, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Même 2-3, ça serait trop, mais il y en a beaucoup. C'est un réel très grand problème à Montréal. Monsieur Maxime Roy-Allard, êtes-vous encore avec nous?
Oui, tout à fait.
Oui, bonjour. Ben,
là, au Québec, on n'a pas de code du logement. Hein. Il n'y a pas de normes qui viennent dire c'est quoi les entretiens minimales des logements. Il y a certaines villes qui ont des codes du logement, mais ne sont pas toujours très bien appliqués. Ça manque beaucoup de mesures mordantes. Mais bon, c'est la réalité.
Tu trouves qu'il n'y a pas assez de mesures contraignantes?
Oui, c'est ça. Il n'y a pas assez de mordant, disons, pour pénaliser les propriétaires qui répondent pas à ces normes d'entretien minimales et qui, finalement, affectent la santé et la sécurité.
Oui, quand on parle de moisissure, ça donne des maladies très, très, très graves. Je sais, j'ai dû
contaminer. Il y a des enfants qui grandissent là-dedans.
C'est pas drôle.
Il y a des enfants qui grandissent dans des logements insalubres qui vont développer des problèmes d'asthme, des problèmes pulmonaires divers pour le reste de leur vie. Là, c'est vraiment...
Et des problèmes de dépression, ça vient avec aussi.
Ah oui, les problèmes de santé mentale avec les punaises de lit, on en voit quotidiennement.
Réinvestissons dans notre parc pour l'améliorer, pour enlever ces problèmes de moisissure, de qualité d'air pourri, d'infiltration d'eau. Est-ce qu'on peut faire ces travaux-là? La réponse, c'est les critères de fixation de loyer sont insuffisants. Si on avait des meilleurs rendements, je vous dirais que les propriétaires n'attendraient pas d'avoir un inspecteur qui vienne les voir. Ils seraient proactifs, ils travailleraient en prévention. Mais écoutez, vous savez, il faut... Les coûts, là, dans les ça c'est un élément que vous savez peut-être pas tous là, mais les coûts de rénovation des immeubles locatifs sont beaucoup plus chers parce qu'il faut faire affaire avec des travailleurs assujettis à la loi R20. Ça c'est 82 $ l'heure en moyenne. Pourquoi? Parce que ce sont des logements locatifs. Ce sont les gens les plus pauvres qui vivent dans les logements les moins bien entretenus et les coûts de construction, les coûts d'entretien sont les plus élevés parce que ce sont des immeubles locatifs. Il y a quelque chose d'aberrant là-dedans. Alors, travaillons ensemble, mais donnons-nous un cadre législatif qui favorise le réinvestissement, la qualité, le bien-être des gens qui vivent là. La majorité des propriétaires le souhaitent. Tous les locataires le souhaitent sans aucun doute. Mais on dirait qu'il n'y a pas de courage politique.
Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'incitatif, par contre, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas... d'une part, les propriétaires ne respectent très souvent pas les indices de la régie du logement, donc ils vont bien au-delà des mesures suggérées. D'autre part, c'est pas vrai que ça prend 43 ans récupérer les investissements.
Quand on fait des travaux... Vous parlez, M. Roy-Allard, là, je m'excuse, mais c'est 43 ans.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Votre argument
est fallacieux pour diverses raisons. D'une part, quand on fait des travaux, on a droit à des déductions fiscales.
Donc, les revenus
de
loyer.
De l'argent là-dedans.
Les revenus de loyer sont
importants. Excusez-moi, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Quand on fait des travaux, notre immeuble prend de la valeur. Donc, l'argent va la récupérer en partie au bout du compte. C'est pas au locataire existant qui va vivre parfois quelques années dans un logement de payer l'ensemble des travaux qui pourront bénéficier à l'immeuble sur parfois des décennies. C'est pas ces locataires.
Rachetez-les, les immeubles. Rachetez-les. Offrons au gouvernement et à tous les organismes qui veulent racheter les immeubles privés. On va investir l'argent dans d'autres choses. Quand il n'y a plus d'intérêt, c'est pas juste une question de coût, là. C'est une question d'intérêt. Parce que les propriétaires, j'entendais Sylvain tantôt, le propriétaire d'un plex, ils ont encore envie de gérer des problèmes, de réinvestir. Heureusement, oui, mais je vous dirais de moins en moins, il faut garder cet intérêt-là. Là, il y a une chose qu'il faut souligner, M. Bigrand. Mm-hmm. Pour 2021, la pandémie et la crise économique sévit pour tout le monde. Il y a aussi des propriétaires qui ont des pertes de revenus. Mais vous savez, le marché va jouer un peu plus en faveur des locataires cette année parce que le taux d'inoccupation est en train de remonter. Beaucoup moins d'immigration.
Oui, mais en train de remonter à quoi? Là? On ne parle pas d'un taux de 25% non plus.
Bien sûr que
le
non,
taux est tellement petit.
On dépasse le 2, on s'approche du 3 selon nos chiffres, on attend ceux de la CHL. Alors, les choses vont aller un peu mieux. Je ne pense pas qu'il y ait des augmentations aussi élevées cette année qu'il y en a eu en 2019. 2020, ça a été relativement modéré. 2021 va être modéré aussi. En 2019, il y avait une rareté de logements. C'est vrai que les prix ont augmenté à ce moment-là.
Bon, donc finalement, vous prônez un peu... Vous-même, le gel des... Vous dites que ça ne montera pas cette année, mais c'est juste de ça qu'on parle, là. On ne parle pas de tout le problème, parce que évidemment, je comprends qu'un propriétaire n'est pas là pour perdre de l'argent. Ça, je comprends. Mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui va payer au bout. Alors là, il faut se demander c'est qui, parce que là, semble-t-il qu'il y en a qui ont fait beaucoup de spéculations, qui ont fait beaucoup d'argent, qui sont sauvés avec la caisse, comme on peut dire. Et puis, là, il reste... Est-ce que c'est au propriétaire à payer ou au locataire? Dans le cas des logements insalubres qui sont extrêmement nombreux, on ne peut pas demander au locataire de porter ça. Ceci dit, on va continuer à y réfléchir. On va prendre une petite pause et puis on continue. On va prendre des appels, mais restez avec nous, M. Roy-Allard et M. Brouillette. On vient tout de suite après la pause. Je vous rappelle qu'on parle toujours, on se pose la question, est-ce qu'on devrait geler la hausse des loyers en 2021, comme a été suggéré par le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla. Évidemment, ceux qui représentent les locataires sont pour, ceux qui représentent les propriétaires sont contre. On peut comprendre ça, on va écouter les arguments des deux, mais je veux vos appels avant. On a Ghislaine pour commencer. Bonjour Ghislaine.
Bonjour.
Êtes-vous d'accord avec ça, avec un gel? Ben,
moi, j'appelle un gel mitigé. C'est comme sur papier, OK, on augmente le loyer, parce que les propriétaires, si... il augmente pas d'année en année, ben à un moment donné, la valeur locative ne rejoint pas le marché. Fait que si on augmente sur papier, mais je fais une lettre, OK, mon propriétaire me fait une lettre et me dit, bon, ben OK, j'augmente de 1,8%, mais toi, pour cette année, je n'augmente pas. Mais par contre, l'année prochaine, vu que cette année, il y a la pandémie, bon, ben l'année prochaine, quand le cours va reprendre, ben là, on reprendra au prix où est-ce que le loyer sera rendu. Fait que lui, il ne perd pas sa valeur locative. Moi, comme locataire, je ne suis pas touchée parce qu'il y a une hausse que je ne suis pas capable d'absorber à cause de la pandémie, la perte d'emploi, la perte de revenus, tout ça. Fait que je pense que c'est une solution qui convient aux deux. Autant au propriétaire qui continue, parce que la loi est ainsi faite que s'il n'augmente pas une année, ben l'année suivante, il ne peut pas augmenter pour les deux années.
Je comprends. La seule chose que je vois venir à un moment donné, c'est peut-être le fait que, bon, par exemple, je parle pour dans ma cour un peu, c'est juste parce que je cherche un exemple dont je parle de ce que je connais. Si après la pandémie, moi, je rengage un technicien avec qui je travaillais avant, puis il me dit, ben Dan, j'ai trop souffert pendant la pandémie, maintenant je double mes prix. Mais je vais répondre, j'ai souffert aussi, puis t'éclairer mon estime. Ça va arrêter là. À un moment donné, après le gros de la pandémie, on va tous être tentés de porter le poids du manque d'argent chez le voisin. On va tout être tenté. Alors, les propriétaires vont vouloir pelleter ça chez les locataires. Les locataires vont vouloir pelleter ça chez le propriétaire. En ce moment, ce qu'on fait tous, c'est qu'on pellete en avant.
Mais ça protège les deux. Actuellement, je suis locataire, mais j'ai déjà été propriétaire.
Oui.
Mais rappelez-vous qu'il y a une époque, là, quand tu avais un bon locataire puis tu n'avais pas de trouble, tu ne l'augmentais pas. Mais si tu étais là pendant 20 ans puis qu'au bout de 20 ans, ben toi, tu ne l'avais pas augmenté puis tu étais encore à 300$ puis que l'autre à côté t'a rendu à 800, ben là, tu ne pouvais plus louer au prix du marché.
Je comprends. Ghislaine, je vous comprends, je dois vous interrompre. On a une dépêche qui vient de rentrer, mais mes deux autres invités, sauvez-vous pas, vous m'échapperez pas. On va continuer à en discuter après. On a notre service de nouvelles qui vient de rentrer et qui me fait un beau sourire. Excuse-moi, j'oublie ton premier nom.
Julie Héroux.
Julie. Bon, Héroux, je savais, puis Julie, je savais pas. Merci beaucoup. Et nous autres, on peut se faire des beaux sourires encore au plexiglas, mais là, il y a des nouvelles. On était scandalisés, là, des voyageurs qui allaient, après cette fête, bronzer les fesses, qui allaient se collecter un 1 000 $ pour se confiner.
Oui. Alors, Justin Trudeau est en point de presse en ce moment. Il vient d'annoncer que les gens qui sont allés dans le sud pendant le temps des fêtes n'auront pas le droit, finalement, au fameux 1 000 $ de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Donc, on peut l'écouter tout de suite, ce qu'il vient de dire.
L'objectif n'a jamais été d'envoyer un chèque à ceux qui décident de partir en voyage à l'encontre des avis de santé publique. Mon message à ceux qui sont allés dans le Sud est clair. Vous n'aurez pas droit à cette prestation. Elle n'est pas prévue pour vous. À ceux qui ont été fâchés en lisant les reportages en fin de semaine, je partage votre frustration et votre indignation. On est en train de corriger la situation rapidement.
Mon Dieu, c'est clair.
Oui, donc les voyages non essentiels dans le sud durant les fêtes, les gens n'auront pas le fameux 1 000 $ qui a tant fait crier les Québécois durant les vacances. Et par ailleurs, il a rappelé en fait que cette prestation-là, ce à quoi elle doit servir, c'est par exemple les travailleurs d'épicerie qui ont besoin d'aide là, quand ils doivent s'absenter du travail parce qu'il y a un collègue qui est malade ou parce qu'eux-mêmes ont des symptômes. Donc, c'est plus à ces gens-là vraiment que ça s'adressait. Alors, on va colmater la brèche à ce sujet-là.
Par ailleurs, parce qu'il va en avoir d'autres. Hein. C'est une loi qui a été adoptée pour tout le monde tout d'un coup dans l'urgence. Mais là, il va se présenter des cas d'espèce. Et ça en était un. Mais il va y avoir d'autres sortes de cas d'espèce aussi.
Possiblement, ce sera à suivre. En tout cas, on aura tous les détails concernant ce point de presse de Justin Trudeau qui se poursuit en ce moment. Mon collègue Francis Pilon écoute ça. Donc, ce sera avec lui pour la suite.
Merci beaucoup, Julie. C'était Julie Héroux. Merci. Je vais apprendre à le dire correctement. Passe une belle journée. Ben, c'est déjà une nouvelle. Le seul petit bémol, parce que moi non plus, j'ai pas tellement envie. Je veux dire, si on a se payer un voyage, là, qui paye pour se mettre en quarantaine. Mais cet argent-là avait été promis aux gens pour éviter, bien d'un, qu'ils crèvent de faim quand ils doivent s'isoler, mais de deux, éviter qu'ils retournent au travail trop vite parce qu'ils manquent d'argent et qu'ils aillent infecter les autres. Maintenant, le problème va quand même se poser pour ceux qui reviennent en voyage, qui nous soient sympathiques ou pas, n'y changent rien. Ils vont devoir s'isoler si on leur coupe le 1 000 $, est-ce qu'ils vont être tentés de retourner plutôt au travail? Je sais pas. C'est compliqué surveiller tout le monde. J'aimerais pas avoir à gérer ça moi-même. C'est quelque chose. Il y a pas un politicien qui s'est présenté pour gérer ça. C'est certain. Le dernier, c'est la grippe espagnole, mais on ne taponne personne. On va retourner à nos loyers. Et je me demande si on a encore quelqu'un sur la ligne. Isabelle, est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, on a Claude. Salut, Claude.
Bonjour, comment ça va?
Ah, nous autres, ça va bien. On fait aller. C'est pas facile pour personne, la maudite pandémie, mais on fait aller.
Félicitations pour votre émission de radio. Vous vous rendez ça assez accessible à tout le monde.
C'est gentil. C'est gentil. Mais mes deux invités font des gros efforts aussi pour que ça le soit pour tout le monde.
C'est très bien.
Oui, moi, je trouve qu'on a un beau débat, là.
Ben, je trouve qu'on a un beau débat, mais je trouve qu'on se perd un petit peu.
Ah oui?
Oui, parce qu'en tant que locataire, puis en plus, je suis entrepreneur général, je bâtis, je vis des deux côtés de la médaille. Je représente des propriétaires et je suis locataire.
Ah oui, oui, oui.
Je pense que le problème, c'est la valeur de l'argent. À chaque mois, tous les Québécois envoient de l'argent à Hydro-Québec, mais on n'est pas des clients, on est des actionnaires. L'eau appartient pas à Vandal ou à un parti, elle appartient à tout le monde. Pourquoi Hydro-Québec ne nous prend pas tous Québécois pendant la crise puis ne nous renvoie pas des redevances? On dit de l'argent en français, mais en anglais, c'est currency. L'argent doit se promener dans le courant. C'est illégal de garder de l'argent à la banque qui ne fout rien. L'argent doit être dans le courant, currency. Elle doit bouger. Hydro-Québec se vend des profits, mais Ce n'est pas une personne. Pourquoi on ne reçoit pas un chèque de 200-300$ à chaque mois d'Hydro-Québec? Des redevances de notre cotisation de 30 ans en tant que Québécois.
On est juste d'après moi, c'est parce que Hydro-Québec, Claude, Hydro-Québec finance quand même le gouvernement. Je ne sais pas quel programme le gouvernement finance avec ça, mais si on décide de financer, par exemple, les locataires et les propriétaires de condos, d'après moi, il va falloir couper ailleurs.
Juste redonner aux Québécois un per diem, une redevance. On n'est pas des clients d'Hydro-Québec, on est des actionnaires. On est tous majoritairement propriétaires. On est tous Québécois. L'eau n'est pas plus à Sylvain qu'à Éric. L'eau est à tout le monde. Ils se vendent de constamment avoir 5 milliards de dollars de surplus. Moi, je prendrais la même attitude que vous avez dit tout à l'heure. Il y a le temps qu'on se partage. Après ça, tu peux continuer à monter des loyers. C'est la valeur de notre
argent. Il y a un moment où je suis d'accord avec vous, Claude. C'est quand il y a des débats pour dire non, on aide trop la population en ce moment. On va se créer des dettes impossibles à payer. Oui. Puis pendant ce temps-là, il y a des surplus. Oui, ça, c'est un peu insultant, ça. Ça, je peux comprendre ça.
Surtout un organisme qui nous appartient tous. Il n'y a pas personne qui peut se dire propriétaire d'Hydro-Québec. Ils ont des centaines de millions à perdre. Ils vendent des équipements de centaines de millions de dollars pour quelques millions. Il y a un surplus d'électricité. On envoie 50 milliards de dollars de nos taxes au Canada à chaque année. On n'a jamais signé leur constitution. On n'a jamais voté faire partie du Canada. On ne fait pas partie de leur traité. Mais ils envoient Sibia de l'Ontario s'occuper de la caisse de dépôt. Puis là, il est rendu sous-ministre au Canada. Pourquoi tu penses?
Okay. Pas un Ontario. On va garder ça un peu plus centré. Mais ce que je comprends, Claude, de votre appel, parce que là, je veux relancer mes invités, c'est que ça serait peut-être une bonne façon de refinancer peut-être les locataires et les propriétaires d'appartements eux-mêmes, les propriétaires de condos, que de les aider un peu par les surplus qu'on a à Hydro-Québec. Merci beaucoup, Claude. Monsieur Roy, alors, qu'est-ce que vous penseriez de ça?
Bien, c'est sûr que de manière générale, au Québec, il y a un problème du financement de nos programmes sociaux. On a délaissé beaucoup dans les dernières années, les derniers gouvernements, différents programmes qui viennent aider les populations plus vulnérables. Je peux illustrer un peu ce que vivent les locataires plus vulnérables au Québec. Il y a environ près de 200 000 ménages locataires au Québec qui accordent plus de 50 % de leurs revenus chaque mois au loyer. Ça, c'est selon le dernier recensement de Statistique Canada. Dans le Grand Montréal, on a recensé au printemps dernier qu'un 3,5, ça coûte environ 1140 $ à louer aujourd'hui au Québec. Les logements qu'on retrouve sur Kijiji ou sur Facebook, c'est le prix qu'il faut s'attendre à payer aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'avec les passes, ça marche pas. Il y a des gens qui n'en arrivent pas. Un chèque d'aide sociale, c'est un peu plus de 600 $. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est pour ça qu'il
y a pas de logement à 600 $. Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. On ne va pas en trouver. Une session de baisse, on est extrêmement chanceux, mais il n'y en a plus. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, puis là, avec le confinement qu'on va subir dans les prochaines semaines plus généralisées, des gens qui vont perdre leur emploi, des gens qui vont perdre des sources de revenus, il faut des mesures pour aider les locataires. C'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement aussi avec le confinement qui s'en vient. Il faut prendre un nouveau moratoire sur les expulsions, si on arrête les audiences au tribunal administratif du logement. Ça va prendre des mesures, des programmes pour aider les locataires à payer. Ici, les propriétaires, les petits propriétaires qu'on a entendus tout à l'heure, vivent aussi des problèmes et qui réclament des programmes aussi pour recevoir de l'aide.
On n'en a pas.
Ils n'arrivent pas à payer leur hypothèque.
Oui, M. Brouillette, il dit on n'en a pas.
Hey, on l'a bien demandé. On a dû assumer le service essentiel du logement pendant des mois sans que les loyers rentrent. Ça, c'est, on parle du.
On est quand même en crise en ce moment.
Il faut réclamer?
Oui.
Réclamer quoi? À qui? On n'a rien eu, bien sûr qu'on a réclamé, mais on n'a pas eu un sou, là. Voyons donc.
Monsieur Roy Allard et Monsieur Brouillette, je comprends que le débat n'est pas fini, puis qu'on pourrait y passer la journée, puis il y aurait toujours quelque chose de nouveau qui sortirait. C'est très intéressant. Puis ça ouvre la porte aussi. De quelle façon on équilibre tout ça entre tout le monde? D'après moi, propriétaires et locataires sont tous des êtres humains qui ont le droit de gagner leur vie. C'est pas simple pour personne. Je comprends la discussion. J'étais très, très content de vous recevoir, monsieur Hans Brouillette. Je vous souhaite une très, très, très belle journée, puis j'espère que vous allez bien passer au travers de cette crise qu'on vit en ce moment. C'était Hans Brouillette qui est directeur des affaires publiques de la Corpic.
Merci de l'invitation, monsieur Biran.
Merci. aussi, prenez soin de vous. Et on a Maxime Roy, alors, qui est porte-parole du regroupement des comités de logement et associations des locataires. Je te remercie aussi. Et puis, on se parlera une autre occasion. En revenant, on a parlé beaucoup du terme « se réinventer ». Mettons que ça me grattait un peu les paupières, là, à un moment donné, mais il y en a qui l'ont fait. Puis, je suis devenu, malheureusement, contre moi, malgré le fait que je me suis fâché contre le terme, je suis venu d'accord avec pas mal. Il faut se réinventer. C'est un instrument de survie de la race humaine. On va vous donner un exemple tout de suite de retour après la pause.